Manitou, la famille d'Abraham, première bande.
Vache sur des passages de la Genèse concernant l'histoire de la famille d'Abraham, puisque nous avons établi ce sujet à la suite, disons, relié au sujet de la soirée d'ouverture qui était consacrée à l'hommage à M. Neher et qui avait pour titre Abraham l'Hébreu, comme nous en souvenons. Alors, nous avons donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. On décidera par la suite si le calendrier nous permet d'avoir un cours de clôture vendredi matin.
Et dimanche matin?
Dimanche matin, c'est pas possible. Il y a les journées des juifs marocains, samedi soir, dimanche et lundi. La maison sera occupée, comme les territoires. Et la... Mais on essaiera pour vendredi matin, ça dépend aussi de mon calendrier et du vôtre, mais nous avons le temps. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous avons quatre thèmes. J'ai choisi pour aujourd'hui un midrash relié aux analyses que nous avons lues samedi soir, pour ceux qui ont assisté. Je voulais savoir d'ailleurs qui n'était pas là samedi soir, que j'en tienne compte. Samedi soir, la première séance, quel? Bon, pratiquement tout le monde. Quoi. Mais c'est bon. La moitié, c'est pratiquement tout. Alors, je vais vous expliquer quels sont les textes que vous avez dans ce fascicule. La première page, nous aurons à lire à partir du verset 27, Kabzaïn en hébreu, la généalogie de la famille de Terach, qui est le père d'Abraham. On le fera assez rapidement, simplement pour les indications qui nous sont nécessaires pour étudier la midrash qui va être introduite. Deuxième page, vous avez la traduction française. La troisième page, c'est le début de la paracha de Lech Lecha. Nous avons besoin, en fait, du premier verset, de deux mots dans le premier verset, qui sont à la base du midrash que nous avons étudié. Vous avez donc la traduction française ensuite. Page 69, chapitre 12, vous y êtes. Ensuite, nous aurons besoin des deux premiers versets du chapitre 22, vous avez dans la suite, toujours de la Genèse. Vous en avez la traduction. Et puis, on aborde la dernière page, qui est le midrash que nous allons étudier. Alors, je vous propose de travailler de la manière suivante. On va d'abord établir la traduction du Midrash. Vous l'écrivez pour vous-même. C'est intentionnellement que je ne vous ai pas donné le Midrash traduit, parce que c'est une étude, ce n'est pas une lecture, disons. Et au fur et à mesure de la lecture de la traduction du Midrash, je vous donnerai les indications nécessaires sur l'exégèse des textes de la Torah que nous reprendrons, le cas échéant d'ailleurs, avec le commentaire de Rashi. Voilà, quel est le problème? Vous prenez la page, prenez d'abord la page, la troisième page du cahier. Attendez. Premier verset du chapitre 12. Vayomer Hachem el Abraham, et Dieu dit à Abraham, nous sommes encore à un moment du récit où Abraham a encore pour nom Abraham. Retenez bien cette indication. Lech lecha, va pour toi, me'artzecha, de ton pays, ou me'molatecha, de ta patrie, ou me'betabicha, de ta maison paternelle, el haaretz asher areka. Vers la terre, vers le pays que je t'indiquerai. J'ai traduit directement sur le texte hébreu. Alors tournez la page, nous allons voir comment votre traduction que vous avez formule cela. Je vais le lire à voix haute. L'Éternel avait dit à Abraham, va pour toi, hors de ton pays, de ton lieu natal et de ta maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. Donc, grosso modo, la traduction est parallèle. Alors, la question principale des commentateurs, et en particulier du Midrash que nous allons étudier, et vous le devinez à la simple lecture du verset, c'est que, en principe, Abraham ne sait pas où aller, puisque ce pays n'est pas indiqué. Est-ce que c'est bien clair? Je reprends très précisément la question. Lech lecha el haaret asher arita. Et va pour toi. Nous n'étudierons pas aujourd'hui ce redoublement. Lech lecha, va pour toi. Qu'est-ce que le lecha ajoute au lech? Et indépendamment du fait que ce sont les mêmes lettres, les mêmes consonnes de l'alphabet, mais ce sont deux mots différents. Lech, va, la racine alor, allez. Lecha, c'est pour toi. Li, lecha, lo. Vous êtes déjà familier. Et Dieu dit à Abraham, va, et quitte donc ton pays d'origine. Nous avons à repréciser ces nuances de chacun des termes, Artsecha, Molatecha, Betavicha, à travers le Midrash. El Aaret Asher Areka. Au pays que je te montrerai, que je t'indiquerai. Donc la question est très claire. On est devant une très grande difficulté. Mettons-nous à la place d'Abraham. Où va-t-il aller? L'explication habituelle, c'est qu'il y a un appel à l'initiative de l'homme et il faut que Abraham accepte ce pari d'une initiative, sans risque calcul, sans sécurité, d'une certaine manière. L'idée que je voudrais exprimer est la suivante. Il y a une initiative qui est exigée, mais on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas le code de la route qu'il faut prendre. Et il y a là déjà un thème très important que le Midrash va préciser. Ce n'est que si l'on arrive là où il fallait arriver, qu'il se révélera que c'était bien là qu'il fallait arriver. Vous comprenez quel est le thème? Et c'est une définition de la difficulté, de l'héroïsme, de l'engagement, tel qu'en parle ce verset. Voilà donc la première lecture. Alors, prenez maintenant le début du chapitre 22. Ce sont les premiers versets du texte que l'on appelle en français le sacrifice d'Isaac et que l'on appelle en hébreu la Hakedat Yitzhak. Et nous allons voir dans ce texte que la même expression va être prise, mais cette fois avec une indication géographique plus précise. Vaïhi, et il arriva, Achar Dvarim Haele, après ces événements, Vaelokim Misa et Abraham, que Dieu mit Abraham à l'épreuve, éprouva Abraham, Vayomer Elav, et il lui dit, Abraham, il y a un appel, nominalement, identifié, avec le deuxième nom d'Abraham. Le premier texte était Abraham. Le deuxième texte, c'est Abraham. Donc, ce deuxième passage est après la mutation d'identité qui fait que Abraham devient Abraham. Verset 2. Vayomer, et il dit, c'est Dieu qui parle, Kachna, prends donc et Bincha, ton fils, Yechidecha, ton unique, Asheva Hafta, que tu aimes, et Titzrat, Isaac. Mais lech lecha, et va pour toi, vous retrouvez la même expression, El Eretz Moria, au pays de Moria. Qu'est-ce que c'est le pays de Moria? Eh bien, c'est dans le pays de Canaan, un endroit géographique bien précis, c'est le Har Moria, qui deviendra la montagne du Temple. Et c'est sur le Har Moria que va se passer la scène de ce qu'on appelle en français le sacrifice d'Isaac, que je mets entre guillemets, puisqu'il n'y a pas eu de sacrifice, et que ce n'est pas Isaac qui est éprouvé, c'est Abraham qui est éprouvé. Vous vous rappelez du premier verset. Donc, dans tout ce que nous venons de voir, il y a autant de sujets à approfondir. Nous verrons ce que l'étude nous mène à désigner comme sujet, mais enfin, puisque nous sommes en séance d'étude, si vous avez des questions, vous les indiquez. Voilà, maintenant, ça ce sont les sources. Ce sont les données du problème que nous avons à résoudre. Le premier Lech Lecha s'adresse à Abraham, et nous avons donc à redéfinir l'identité à Abraham, lorsque, nous savons déjà qu'il s'agit d'Abraham, il porte encore le nom de Abraham. Il est en chemin, quittant l'exil d'Ur-Kasdim, pour se diriger vers le pays de Canaan, d'après un texte précédent que nous reverrons immédiatement. Et ce premier verset donc de l'Echlecha nous apparaît d'autant plus sibyllin, si j'ose dire. Prenez la première page, à partir du verset 27, Kabzaïn en hébreu, suivez-le en français si vous ne lisez pas l'hébreu, et je traduis directement sur l'hébreu. Ve'ele toldot Terah, et voici les engendrements de Terah. Terah, comme vous le savez, est appelé Taré en français, T-H-A-R-E dans la traduction française. Je le dis souvent, je n'ai jamais compris pourquoi. En français, Terah, on l'appelle Taré. Oui, mais en français, Taré, c'est pas lui. Et voici les engendrements de Terah. Terah, vous dites, Terah a engendré. Vous savez, nous avons l'habitude de traduire le terme de Holid par engendrer lorsqu'il s'agit du père qui engendre. Yalad, Yalda, lorsqu'il s'agit de la mère, on a l'habitude de dire enfanter. Donc je dirais engendrer, puisqu'il s'agit de Terah. Et Abraham, Nahor, Vet, Haran. Donc, dans la famille de Terah, il y a trois enfants. Abraham, Nahor et Haran. Il nous faudra suivre les pistes d'identité de ce que deviennent ces trois fils de Terah, Abraham, Nahor, Haran. Retenez déjà ce premier sujet d'étude. Ve Haran holid et Lot. Et Haran a engendré Lot. Lot qui va sortir de Kasdim avec Abraham et qui est donc le neveu d'Abraham. Nous apprenons très rapidement le verset suivant, verset 28. Ve Yamot Haran al pene Terah. Que Haran est mort en exil, devant Terah, en présence de Terah. Le Midrash met en évidence le contenu de signification de cette précision. En hébreu, l'expression est très particulière, mourir sur la face de quelqu'un. Mourir près, devant quelqu'un, près de quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tous ces sujets d'études, mais je vous les signale en passant. Vayamot Haran al pene Terah Aviv, Haran est mort devant Terah son père, Beretz Melavto, dans le pays de sa naissance. La Moledet, en hébreu moderne, signifie la patrie. Je vais revenir un certain nombre de fois sur ce terme dans notre exégèse. Moledet, c'est la patrie. Et qu'est-ce que signifie la patrie en hébreu, en français, pardon? Lorsqu'on dit patrie en français, qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, si un Français dit que la France est sa patrie, il y a une autre expression aussi dans le verset de l'Echecha, Betavicha, ta maison paternelle. Pardon? Ah, ça c'est autre chose. Alors en hébreu, étymologiquement, c'est ton lieu natal, là où tu es né. Mais on a l'habitude de traduire ce terme par patrie. D'où une ambiguïté. Nous allons apprendre tout à l'heure, je reviens sur un des thèmes de samedi soir, que ce pays de Haut-Kasdim, ce n'est pas du tout la patrie d'Abraham. La patrie d'Abraham, c'est le pays Canaan. Et pourtant, on le désigne par le terme de Moledet, parce qu'il est né là-bas, dans le pays de Haut-Kasdim. Je donne un exemple, en parenthèse furtive. Lorsqu'un juif arrive en Israël, si on lui demande quelle est ta patrie, il a tendance à dire son pays natal. Alors que sa patrie, c'est Israël, même s'il n'y a jamais mis les pieds. Vous voyez l'importance du problème. Et nous verrons que le Midrash ne va pas nous laisser esquiver ce problème. Nous verrons avec le Midrash tout à l'heure. Alors, je reprends. Vayamot Haran, et Haran mourut, al pene Terah, sur la face de Terah, à vivre son père, Beretz Molato, dans le pays où il est né. Alors que pour le dictionnaire, Moledet, ça veut dire la patrie. Retenez bien cette nuance. Comment traduit-on tourner la page? Voilà, c'est très bien traduit là. Haran mourut du vivant de Terah, son père. Verset 29 ou 28, j'ai pas ma loupe. C'est 28 oui. Mourut du vivant de Terah, son père, dans son pays natal à Haut-Kasdim. Vous voyez, c'est pas la patrie dans le sens précis que ce terme a dans le vocabulaire contemporain. C'est bien clair? Bon. Je continue. Vaïlkar, Abraham ben Nahor, Lahem Nashim, Abraham et Nahor prirent pour eux, pour femmes, des femmes, Shem Eshet Abraham Sarai, le nom de la femme d'Abraham Sarai, et Shem Eshet Nahor Milka, et le nom de la femme de Nahor Milka. Bat Haran, fille de Haran, vous voyez qu'on reste dans la même famille. Et Abraham était le frère qui était mort devant son père Terah. Abi Milka, Aram, père de Milka, et Abi Iska et père de Iska. Là, le Midrash établit que Iska, c'est un autre nom de Sarai. Vous reverrez vous-même les exégèses du verset. Tout ça, c'est autant d'heures d'études pour chaque sujet. Et vous voyez que lorsque le verset formule une précision, un détail, il y a un monde de perspectives d'études. Et là, vous abordez l'étude du Midrash. Vous verrez que c'est autre chose que l'étude de l'exégèse pshat du texte. Qu'est-ce que le texte dit dans ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, c'est le Midrash qui va le mettre en évidence. Mais dès qu'on lit directement sur l'hébreu, on s'aperçoit qu'on ne peut pas étudier cela sur des traductions. Vous avez compris? Verset 30. Vatehi Sarai Akara. Or, Sarai était stérile. C'est ainsi qu'on traduit habituellement, à l'aide du dictionnaire, le mot de Akara. Mais, s'il y a des biologistes parmi vous, ou des médecins, ou simplement, si vous êtes au courant du sens scientifique de ce terme, stérile se dit de quelqu'un qui ne peut pas enfanter. Or, nous savons que Sarah va enfanter en fin de compte. Donc, ce n'est pas le nom de stérile qui doit être. Je ne sais pas s'il existe un mot en français. Peut-être. Ce n'est pas joli, mais peut-être. Inféconde, non, même pas. Ah non, ce n'était pas psychique.
Il y avait un ancien mot.
Ah, c'est un médical? J'adore. J'allais dire, j'achète. Et très bien. Alors, on va avoir les alternatives. Pardon?
On disait Brehein en vieux français.
Non, c'est bien. Non, je me souviens, oui. Et quoique il y a une controverse dans le Midrash, nous avons deux lectures. Une lecture qui dit stérile, vraiment, pouvait pas enfanter. Et donc il y a eu un miracle. Un miracle beaucoup plus profond que empêcher d'enfanter pour quelque cause que ce soit, la cause psychique étant une des causes possibles. Mais là, les Midrashim auxquels je fais allusion montrent que c'est Dieu qui empêche l'enfantement. J'explique ça rapidement, c'est encore un autre thème d'étude. Il y a la lignée de la matrice d'engendrement du fils de l'homme qui se cherche dans l'histoire des généalogies. Ce n'est pas un compte-rendu d'état civil, un tel a eu un petit d'homme, une petite d'homme nommé un tel par copie plus ou moins conforme. La multiplication de l'espèce, ce n'est pas ça. On cherche par quelle lignée, par quelle matrice passe la modification du sujet humain qui mène à l'identité messianique. Ces généalogies du récit de la Bible ont un objet bien précis. À partir de l'homme, Adam, premier, c'est l'histoire de l'engendrement du fils de l'homme dans le sens total, dans le sens qu'emploient les prophètes, surtout le prophète Ézéchiel, quand il parle du fils de l'homme. Ce que la théologie chrétienne a mis comme connotation à ce terme, c'est un autre problème, quoique c'est lié, mais c'est un autre problème, je ne veux pas trop mêler cela, mettre de côté, mais c'est bien dans ce sens, de l'expression des prophètes, le fils de l'homme avec un grand F et le grand H. Alors ensuite, de génération en génération, cet effort d'engendrement. Et, rappelez-moi sur quel verset je suis. Ah oui, et lorsqu'on dit Akara, alors qu'il va s'agir de la matrice des mères, les mères d'Israël, il y a ici un choc, il y a une collision de concepts, il faut s'étonner. On nous parle de l'histoire des mères, de la fécondité, et on nous dit qu'elles sont stériles. Il y a un humour profond dans la Bible dont on n'a jamais pris l'idée. Okay, oui, ça va. Alors, ici je vous cite l'enseignement du Zohar. Étant donné que c'est sérieux, cet enfantement, il ne faut pas risquer une approximation. Et tant qu'on risque l'approximation, il y a stérilité imposée. Vous avez dit infertilité. Ça, nous allons l'apprendre à une génération postérieure de l'histoire des patriarches, entre Jacob et Rachel. Lorsque Rachel dit « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Dans le langage culturel contemporain, il faudrait dire « Sinon je suis comme morte. » Parce que même une femme sans enfant est vivante, elle n'est pas morte. Mais le texte hébreu dit morte. Alors Jacob lui répond, Atahat Elokim Anochi Hashem Benachal Aledet. Suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'enfanter? Okay? Et c'est sur ce verset que le Zohar explique, là où les engendrements sont importants, alors il y a risque d'infertilité jusqu'à ce que la matrice d'enfantement arrive à un stade de maturité où on ne risque pas l'approximation. C'est bien clair ? C'est-à-dire, l'obstacle ne se fait adversaire que de ce qui peut réussir. De ce qui va à l'échec, l'obstacle ne s'en occupe pas. C'est déjà échoué. Bon, je vous racontais un midrash hassidique terrible. C'était deux malades vont vers chez le même médecin. Alors ce médecin, au premier malade, dit « Toi, la médecine ne fait rien pour toi. Mange, bois, dors, profite. Tu verras bien. » L'autre lui donne des ordonnances. 613 commandements. Des ordonnances. On a demandé quelle est la différence. Le premier, il n'y avait rien à faire. L'autre, il y a un espoir. Alors il faut être vigilant. 613 commandements. Vous avez compris ? C'est un midrash terrible. Je reviens donc au sujet. Alors, quand la Torah dit que Sarai, elle le dira de Rivka, elle le dira de Rachel, ce sera le cas de Hana, la mère de Shmuel, c'est un thème très important du dossier biblique. Quand la Torah dit que les mères sont infertiles, il faut s'étonner. D'ailleurs, je vous le dirai souvent, d'une façon générale, si on n'est pas capable de s'étonner, on ne peut pas dire. C'est un livre étrange. Est-ce que c'est clair ? Et il faut employer ce terme de s'étonner au sens 17e siècle. Coup de tonnerre. C'est ça que ça voulait dire. Et c'est extraordinaire. De qui on parle ? De Sarah, et se béniront en toi, en ta postérité, toutes les familles de la terre, la fécondité même. Alors qu'est-ce qu'elle est ? Stérile. C'est un livre rassurant. C'est clair. Et c'est plus passionnant que clinique. Et alors, je crois même, je l'avais signalé un séminaire, mais je ne me souviens plus quand, il est fort probable que ce thème de l'empêchement d'enfanter les mères jusqu'à ce que la fécondité réussisse et qu'on ne risque pas l'approximation, c'est une catégorie à laquelle je tiens parce qu'on reviendra sur un autre texte. Nous allons étudier la différence entre Yitzhak et Ishmaël et nous verrons ce qu'il y a entre les deux. Pourquoi Abraham, avec Agar, peut avoir Ishmaël tout entier, un monde d'engendrement. C'est facile, enfin c'est facile, c'est plus que facile, c'est inouï le nombre d'enfants qu'Abraham peut avoir avec Agar. Et chaque fois qu'on en rencontre un, on creuse, il y a un puits de pétrole en plus. Et c'est facile, enfin, c'est peut-être un mot plus exact qu'il faudrait trouver. Dieu n'empêche pas. Il multiplie. Alors que pour enfanter Isaac, il va falloir une difficulté énorme. On y arrivera sur ce dimanche. Il me semble bien, je vous dis ça comme hypothèse de travail, que le thème de la Vierge Marie chez les chrétiens a là sa racine. Et avec le décalage du registre du vocabulaire chrétien par rapport à la Bible hébraïque. Ce qui est un thème d'identité de la famille des patriarches, est poussé dans le récit chrétien à la limite de, j'emploie des termes juifs maintenant, à la limite du mystère du mythe. Vous voyez, une matrice éternellement vierge et éternellement féconde. Alors là, c'est l'histoire de la famille des patriarches. On change de registre. Au niveau du registre de la théologie chrétienne, c'est le mythe. Et est-ce que c'est clair ? Je vais essayer un peu d'éclairer cela. Je vous rappelle mes souvenirs de ma vie d'étudiant. Je crois que je l'ai raconté une fois, mais je ne sais plus où je raconte, à Montréal, ou à Jérusalem, ou à Sarcelles. Je me trouvais à un camp international des étudiants, et je m'étais lié d'amitié avec un représentant des étudiants yougoslaves, et qui parlait français, et qui était un ancien chrétien devenu marxiste. Il m'expliquait comment il avait perdu la foi. Il m'avait dit, vous comprenez toutes ces histoires que raconte la Bible. Mais on n'y comprend rien. C'est vos histoires de famille. Et c'est vrai, c'est nos histoires de famille. Il dit, et comment voulez-vous que j'adore une histoire de famille d'une petite tribu de Bédouins du Moyen-Orient qui s'appelait les Hébreux. Et c'est ça que le christianisme a diffusé dans l'ensemble du monde chrétien, et dans l'ensemble de la diffusion de la culture biblique. Ça m'a fait comprendre ce que les apôtres appelaient des mystères. lorsque les premiers apôtres ont commencé à parler des histoires de la Bible, qui sont des histoires de la famille des patriarches d'Israël, eh bien, la réaction des païens est de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, les apôtres répondaient, ça c'est des mystères. Il n'y a que les juifs qui comprennent. Vous voulez comprendre, demandez aux juifs. Et vous comprenez ce qui se passe? Alors, lorsqu'on étudie les mystères, entre guillemets, de la théologie chrétienne, on s'aperçoit que la plupart du temps, il s'agit de secrets de famille, de la famille d'Abraham, poussés à la limite du mythe. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je ne voudrais pas brosser la sensibilité de personne. Mais ça nous paraît évident. Il y a une différence de catégorie entre le mystère et le secret. Le mystère, c'est une connaissance que l'on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir. Et c'est ainsi que les prêtres chrétiens présentent les propositions de la foi. C'est clair. Alors que le secret, c'est une connaissance qu'on n'a pas, mais qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu les sitrei Torah, les secrets de la Torah. Eh bien, les secrets de la Torah, c'est les secrets de la famille d'Abraham. Alors voilà, il y a un thème d'identité qui apparaît là. Empêchement d'enfanter jusqu'à ce qu'on ne risque plus l'approximation. Alors, c'est raconté par la Bible avec une telle forme, je dirais, c'est presque une obsession, qu'on s'en rend plus compte. C'est raconté pour Sarah, c'est raconté pour Rivka, c'est raconté pour Rachel, c'est raconté pour Hannah. C'est un thème de l'identité d'Israël. Et lorsqu'on lit le récit chrétien, c'est en filigrane, enfoui, scotomisé, si j'ose dire, et on parle apparemment d'autre chose. On parle de la même chose, mais sous une forme païenne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Païenne, entre guillemets, par rapport au regard hébraïque. Il n'y a pas que ce mystère-là, c'est tous les mystères, c'est comme ça. Et je me souviens d'une conversation que j'avais eu avec un prêtre il y a très longtemps, et qui me disait, je crois ça, je l'avais cité, mais je crois que c'est à sa place, et qui me disait, vous êtes, en citant Paul, saint Paul, vous êtes l'olivier franc, et nous sommes l'olivier sauvage, greffé sur l'olivier franc. C'est une phrase très importante actuellement, c'est réutilisé par tous les auteurs chrétiens qui recherchent un chemin de réconciliation avec les juifs. Vous voyez ça dans énormément de déclarations contemporaines. Bien. Eh bien, attendez, je n'ai pas fini là-dessus. Alors, je lui ai répondu, si au moins il s'agissait de ça, si au moins, effectivement, la théologie chrétienne était comme un olivier sauvage greffé sur l'olivier franc, il y a une chance que la greffe prenne. Mais, en fait, vous n'êtes pas greffé sur Israël, vous êtes greffé sur des bibles en papier. Et ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il arrivera un temps où cette greffe, où on parlera de cette greffe. Mais je ne sais pas si on en est encore là. Voilà ce que je voulais. C'est clair ce que je voulais. Pour le dire dans une autre forme un peu catégorique, le jour où les prêtres chrétiens seront formés dans les écoles rabbiniques, ça ira mieux. J'ai pas dit qu'actuellement.
Pourquoi Léa, il y a 4 ans?
Ah, très bien. J'attendais cette question.
Parce que,
il y a l'exception de Léa. Vous voulez que je réponde tout de suite ou on la réveille? Comme vous voulez. Très bien. Léa, il n'y a pas cette difficulté. Voilà. Je vous remercie de la question. Je vous réponds tout de suite. Même si ça nous ouvre une parenthèse, enfin, comme d'habitude, on étudie, on ne traite pas le sujet. Et après, vous avez la parole. C'est ceci. C'est que, de même, vous le verrez, d'ailleurs, je vous renvoie à tous ces textes. Il faut réétudier par vous-même. Il s'agit du récit de la constitution de l'identité d'Israël par rencontre, le mariage entre la descendance d'Abraham et la descendance de Nahor. Abraham et Nahor étaient frères. Or, les pères d'Israël, les avotes, descendent d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob. Les mères sont de la famille de Nahor. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est clair jusque-là ? On ne peut pas ne pas être impressionné par le fait que toute cette histoire de la Bible qui a secoué le monde entier, c'est l'histoire d'une petite famille hébreu, par qui l'histoire de l'espérance humaine a recommencé. Et parallèlement au fait que Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob, Bethuel avait deux filles, C'était Léa et Rachel. Léa et Rachel étaient... Non, non.
La vanne.
La vanne, fils de Bethuel. Bethuel, c'est le père de Rivka. Le fils de Nahor, Bethuel, est le père de Rivka. Alors, Lavan, le frère de Rivka, avait deux filles. C'était Léa et Rachel. Dans le plan primitif, peut-être nous devrons reprendre ça dans la semaine, et pour les faire évoluer, mais je le dis schématiquement, dans le plan primitif, le projet initial, si Ésaü, comme Jacob, avait été un tzaddik, alors c'est entre les deux, Ésaü et Jacob, que l'identité Israël serait apparue, entre les deux, Ésaü et Jacob. Et Ésaü était destiné à Léa, plus exactement Léa était destinée à Ésaü, et Rachel était destinée à Jacob. Comme Ésaü s'est disqualifié, Jacob a pris sur lui et Rachel sa destinée et Léa celle d'Ésaü. Et je vais vous étonner, ce conflit entre diaspora et Israël que nous avons aujourd'hui, c'est le conflit entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Ça vous le retrouvez dans les langues. C'est-à-dire que il y avait la mission d'Israël pour le monde extérieur, c'est Jacob. La mission d'Israël pour Eretz Israël, c'était Ésaü. Léa, c'est la figure de la Shrina pour Eretz Israël. Rachel, pour l'exil. Jacob, c'est l'identité Israël de l'exil. C'est quand Jacob revient de l'exil qu'il s'appelle Israël. Et donc, la vocation Ésaü, Léa, c'est une vocation facile. Israël, d'Eretz Israël. C'est facile. La vocation difficile, c'est Rachel. Est-ce que c'est clair jusque-là? Même si apparemment, dans l'existence, ça semble s'inverser. Je ne sais pas si ce que je vous dis là est trop ramassé et s'il faudra le reprendre plus en détail dans les jours qui viennent, ou est-ce que c'est suffisamment clair? Alors ensuite, Ésaü va devenir ce qu'il va devenir. Alors ce n'est pas par hasard que la descendance d'Ésaü va réclamer Eretz Israël comme étant sa terre sainte. Vous voyez le problème. Le conflit Ishmaël-Yitzhak, c'est la même terre en tant qu'héritage d'Abraham. Mais en tant que la terre sainte, c'est entre Ésaü et Jacob. Alors Jacob va prendre sur lui et la fonction d'Ésaü et la fonction de Jacob. Alors il aura à prendre et Léa et Rachel. Mais avec Léa, c'est facile. Il n'y a aucune difficulté. Dans l'analyse que nous avons eue précédemment. C'est avec Rachel, par où ça passe, c'est Joseph qui va naître de Rachel. Bon. Alors vous voyez que à quel point, pour entrer dans cette lecture de nos textes, il faut vraiment nous séparer de la lecture chrétienne, quitte à la retrouver aux fins de confrontation par la suite. Parce qu'il y a un mélange des concepts, un amalgame. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon. Non, rassurez-vous, Ésaü, on les a eus. Sur ce qu'on dit, oui, monsieur d'abord.
Parce que j'ai entendu le mot tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris, dans ce retard à l'enfantement, le cas de Tamar, malgré le caractère irrégulier de son engendrement à elle?
Je ne l'ai pas dit.
Vous l'avez pas dit.
Mais c'est une dimension du même problème, oui. Mais qu'il faut suivre à partir de Lot. Lot, les filles de Lot. Et le mariage des enfants de Judas. Et ça se rejoint à Ruth. Et lorsque la bénédiction de Naomi sera donnée à Ruth, elle est au nom aussi de Tamar et de Judas. Regardez bien dans les deux, à la fin du livre. Oui, attendez, mademoiselle de Borgogne, monsieur. Tiens. Madame ou mademoiselle?
Madame. Madame. Jacob va prendre sur lui. Est-ce qu'il était conscient des conséquences?
C'est pourquoi il était tellement, inquiet de son avenir. Je vais vous raconter comment le Midrash le dit. Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Laban avait promis Rachel à Jacob. Et puis, il met Léa à la place. Alors, le Midrash raconte que le lendemain matin, Jacob va se plaindre. J'étais fiancé à Rachel. Et voilà que c'est Léa. Alors la bénédiction, tu ne te rappelles pas, au moment de la bénédiction de ton père, tu t'es fait passer pour Ésaü, alors prends-la. Oui, jusqu'où ça va. Ça veut dire que Jacob doit prendre sur lui et la vocation de Jacob et celle d'Ésaü, cachère. Alors il épouse et Rachel, sa bien-aimée, et Léa. Et le texte dit très clairement, et Jacob a toujours préféré Rachel. Tu as remarqué que le peuple juif préfère toujours les juifs. Tu n'as pas remarqué ça? Alors, ce n'est que quand Jacob devient Israël, ça y est, c'est clair. Je vous ai dit des choses dangereuses ou simples? En tout cas, ça vous explique que rien n'est, comment dire, n'est sans signification. Une espèce de mystère. Jacob préférant Rachel, ben c'est depuis l'origine. Le Talmud explique que nous avons deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Et ils ajoutent, et comme Jacob, les Juifs préfèrent le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone s'appelle Rachel et le Talmud de Jérusalem s'appelle Léa. Je vous ai dit. Vous avez ça? Vous avez remarqué ça? Et en Israël, on commence à étudier sérieusement le Talmud de Jérusalem. Et c'est plus simple. Alors, on revient.
Il y a également, on ne sait pas, on ne mentionne pas non plus la mort de Léa dans la Torah.
Comment ?
On ne mentionne pas non plus la mort de Léa dans la Torah.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça ?
C'est caché, je ne comprends pas.
Non, non. Ça veut dire que la matrice de l'exil s'arrête un peu, mais pas celle des résistants. C'est clair ? Je recontinue. Un midrash contemporain terrible. Nous avons un midrash ancien qui dit que Rachel, reprenez votre texte, est mort au retour de l'exil. En arrivant en Eretz Israël, elle s'arrête. L'enfant de Benjamin, elle disparaît. Et alors, le Midrash explique que Rachel n'a pas été enterrée dans la caverne de Marpella, c'est Léa qui est dans la caverne de Marpella, parce qu'elle est enterrée sur le chemin de l'exil pour prier pour ses descendants qui sont en exil. C'est clair. Oui, où est la correspondance? Rachel, en hébreu, je ne sais pas dire ça en français, c'est la shrina pour la galoute. Léa, c'est la shrina pour Eretz Israël. Dans la correspondance que je vous donne dans ces termes-là, j'explique pas plus. Okay. Et énormément d'indications des Midrashim et du Talmud corroborent cette ligne de lecture. Et alors, ce que j'ajoute, c'est ceci, c'est qu'il y a énormément de juifs de l'exil qui demande à ce qu'on rende Bethléchem aux Arabes. Parce que depuis la guerre des six jours, Bethléchem est en Israël. Il n'y a plus de protection de Rachel. Alors, je ne sais pas si c'est à ça qu'ils pensent. Regardez ce que ça signifie. Alors, ils demandent que ça redevienne de l'exil pour qu'il y ait une protection pour les Juifs de New York. Heureusement qu'ils rient. Ça fait plaisir. Vous voyez à quel point tout ça, c'est grave. Ta question imprudente. Oui.
Pourquoi faut-il que ce soit l'enfant tardif qui soit réussi? La qualité d'un être dépend de la combinaison des gènes de ses deux parents. Alors, puisqu'il s'agit des mêmes deux parents, Ava et Sarah, on aurait pu trouver tout de suite la bonne combinaison pour faire un être de qualité.
À quoi vous pensez exactement? Parce que la première partie de votre question, je me proposais de répondre, est très claire pour moi, mais pas la deuxième. Alors, ou bien ces deux questions, ou bien expliquer plus.
Oui, je me demande pourquoi l'enfant est obligatoirement tardif. Dans ce cas, pourrait-on réussir, dans ce cas, dans beaucoup d'autres, puisque la qualité d'un être, on parle de l'engendrement. La qualité d'un être, ça dépend de la combinaison, bon, enfin c'est le mystère de l'hérédité, ça dépend de la combinaison des gènes des deux parents. Alors cette combinaison, bien sûr, est un mystère, mais Dieu aurait pu, sans attendre tant de temps, faire, puisqu'il s'agit toujours des deux mêmes parents en question, ils avaient donc les bons gènes, si je puis dire, en réserve, il aurait pu faire la bonne combinaison du premier.
Mais vous croyez que c'est Dieu qui avait les combinaisons? Et attention, dans beaucoup de sujets, on se demande de quel Dieu on parle. Je vais vous donner un midrash qui me revient par association à votre question, qui se trouve dans le Zohar, à propos de Bilam. Vous savez que Bilam, dans le récit biblique, est borgne. Vous savez cela, Stumaim. Il est appelé l'œil fermé. Nofel Glu Enaim. Ça veut dire qu'il faut qu'il ferme les yeux pour pouvoir voir. Bon, ça c'est Bilam, le prophète des nations, c'est un pour lui-même. Ne me tentez pas de parler de Bilam, on va rester là, je t'aime bien. Alors, le Zohar explique comment il est devenu borgne. Il a découvert une lunette mystérieuse qui lui permettait de surveiller ce que Dieu fait comme providence du monde. Il avait découvert que Dieu regardait, attendait de savoir comment se font la combinaison des gènes, comme vous dites. Et alors, il s'est mis à rire, et en riant, il s'est éborgné avec sa lunette. Ça veut dire que, qu'est-ce que Dieu attend ? Qu'enfin, cette combinaison réussie vienne du génie de l'homme. Parce que si, mécaniquement, comme un Deus ex machina, magiquement, Dieu pourrait nous fabriquer comme un démiurge, un monde parfait, mais ce n'est pas du tout ça notre monde. Reprenez le début du récit de la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième verset, et la terre était chaos. Là encore, il faut s'étonner. Ça, c'est que Dieu a créé le monde, alors c'est un chaos. Et si ce n'était pas Dieu pour le donner, qu'est-ce que c'est là ? Ça veut dire qu'il faut bien prendre garde à cela. Le Dieu dont parle la Bible, ce n'est pas un Dieu qui crée comme un démiurge un monde de mécanique parfaite. Et il y a la part de l'autonomie et du génie de la créature qui, elle, est responsable de l'ingénierie. Alors là, ce midrash que je viens de citer est très clair. Dieu espère un mariage réussi. Alors, le fils de l'homme peut naître. J'espère que j'ai répondu à votre question. Okay. Et donc, cette combinaison des gènes dans notre thème n'est pas la même au même âge des parents. Et attendez-moi, je voudrais finir cette idée pour elle-même. Si j'espère qu'on a bien compris qu'il ne s'agit pas du tout d'un relevé d'état civil de mairie, okay, un tel puis d'un tel, mais du récit de l'effort d'engendrement de l'homme pour qui Dieu a voulu créer le monde parfait, le monde mérité. Et alors, nous assistons à cet effort de se dégager de la stérilité. Une image me revient sur les analyses de tout à l'heure. Je me souviens de la dernière page du livre de Renan sur l'histoire du peuple d'Israël. Comment c'est le titre ? L'histoire du peuple juif ou l'histoire du peuple d'Israël ? Dernière stéréo. Oui. Il termine sur une page qui me reste dans ma mémoire du temps où je l'ai lu, en regrettant que le peuple d'Israël s'est arrêté d'être fécond et a transmis la sève à la branche chrétienne. Vous vous rappelez de cette page ? Et voilà, Renan, c'était avant l'État d'Israël. Mais pendant 2000 ans, la fécondité d'Israël s'est arrêtée. 2000 ans, elle a été en cavale. 2000 ans. Et on a attendu, on a espéré, on a patienté, on a prié, et on a souffert cette histoire juive colossale de 2000 ans. Puis subitement, l'enfant est né. Et tout le monde s'est mis à rire, comme au moment de la naissance d'Isaac. Okay, le rire de dérision, le rire de jalousie, le rire de... Il y a aussi le rire de joie, grâce à Dieu. Mais la naissance d'État d'Israël ressemble beaucoup à la naissance d'Isaac. C'est pas possible. Et puis, subitement, ça arrive, alors tout le monde rit. Des rires différents, hein, tout ce que la Torah nous raconte. Et alors, comme disent les chrétiens, il est né le divin enfant. Vous voyez de quoi il s'agit un peu. Bien. Mais il y avait encore une question, et puis on revient au texte.
Personnellement, je suppose l'accent sur trois fois, trois dimensions, les trois types de terrar, puis Gargara, type ton pays.
Oui, on va voir dans le livre. Oui. Je court-circuite votre question, je vous renvoie au texte ou vous voulez répondre directement.
Ma question, j'ai dit qu'au niveau de la manière dont c'est dit, au niveau de la terre, il y a tout ce qui m'échappe quand on dit type ton pays. Point de vue de l'ordre, ton pays, ton
yatal,
ta maison
éternelle. On va le voir dans le livre. Il y avait une autre chose que vous voulez dire ?
Non, avec ça, je verrai l'inverse en fin de compte. Quitte d'abord ta maison paternelle, ensuite dans ta ville.
Très bien, alors dès qu'on arrive au midrash là, j'espère aujourd'hui.